Et nous poursuivons les matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un céréalier charentais face à Monsanto. La bataille judiciaire reprend aujourd'hui devant la cour d'appel de Lyon. Nous vous raconterons l'histoire de cet agriculteur intoxiqué. Il témoigne d'ailleurs sur France Culture.
Nous irons ensuite aux États-Unis où Donald Trump a tenté un ton rassembleur dans un climat politique délétère lors de son discours sur l'état de l'Union. Le président américain a lancé un appel au compromis, sauf sur l'immigration.
La France était au courant qu'un génocide pouvait avoir lieu au Rwanda après l'attentat contre le président. 94, elle n'a rien dit. C'est une enquête de Radio France et Mediapart que nous vous détaillerons dans cette édition.
Le rejet de la fusion Alstom-Siemens va servir les intérêts de la Chine. Voilà ce que déclare à l'instant le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La Commission européenne craint une atteinte au droit de la concurrence en autorisant la création de ce géant ferroviaire.
Un député en marche sur 5 a fait défection au moment de voter la proposition de loi dite anti-casseurs hier. Est-ce le début d'une fracture au sein de la majorité ? Question posée par Frédéric Seyss dans son billet politique, ce sera après ce journal. Et revoilà donc Monsanto devant la justice, justice française aujourd'hui. Un céréalier charentais, Paul François, en est à son 4e procès en 12 ans contre le fabricant de pesticides. L'agriculteur sera devant la cour d'appel de Lyon aujourd'hui, car il tente toujours d'obtenir réparation. Et ce, après avoir été intoxiqué en 2004, Véronique Roberotte.
Il est devenu en France la figure de la lutte contre les produits phytosanitaires en osant attaquer en justice la multinationale Monsanto, filiale de l'allemand Bayer depuis 2018. La vie de Paul François bascule en 2004 quand il inhale des vapeurs de Lasso, un herbicide de la firme agrochimique. Après plusieurs malaises, le céréalier est longuement hospitalisé, frôle la mort. Il souffre toujours de violents maux de tête et de graves troubles neurologiques. Son mal est reconnu comme maladie professionnelle. La bataille de Paul François devant la justice débute en 2007, l'agriculteur obtient gain de cause en première instance, puis en appel en 2015. Mais en 2017, la Cour de cassation casse et annule l'arrêté rendu en 2015. Pour des questions de procédure, tout est à refaire. Après avoir songé abandonner, Paul François repart donc dans une nouvelle bataille judiciaire, plus déterminé que jamais, dit-il, serein même, car Monsanto n'a pas apporté d'éléments nouveaux. L'agriculteur espère une condamnation de Monsanto pour produits défectueux. Il réclame plus d'1 million d'euros à la multinationale, lui qui a déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros en procédure, hors frais d'avocat. Ces derniers ont accepté de ne pas être rémunérés, sans quoi ce long feuilleton judiciaire n'aurait pas été possible.
Paul François, qui était d'ailleurs l'invité de France Culture hier soir dans le journal de 22h, expliquant ce qu'il attend de la justice aujourd'hui plus qu'hier.
La Cour de cassation, elle nous renvoie devant la Cour d'appel en estimant que c'est pas pour un défaut d'information, mais pour un produit défectueux. Si la Cour de cassation a pris cette décision, c'est qu'elle a eu accès bien évidemment au dossier et en regardant les éléments du dossier, ça leur est apparu évident que les faits étaient plus graves. Ça veut dire que la société Monsanto a délibérément commercialisé un produit défectueux, dangereux pour les utilisateurs, et au-delà des utilisateurs, ça pouvait concerner les riverains et les consommateurs. Et donc les faits sont plus graves, et j'attends que la justice continue à faire le travail qu'elle a fait jusqu'ici, que d'ici un mois ou deux, elle condamne définitivement cette société, et que la page se tourne, parce que 12 ans de combat... J'ai aussi envie de passer à autre chose. C'est le combat de ma vie, c'était le combat de ma famille. Et je crois en la justice. Et au-delà de mon produit, ça montre aussi que cette société est capable de commercialiser et de mentir sur la dangerosité d'un produit.
Citons effectivement aussi l'herbicide au glyphosate, le Roundup de Monsanto. Actuellement, près de 10 000 requêtes judiciaires visent le groupe Monsanto, racheté par Bayer l'année dernière. En août, un tribunal de Californie avait condamné Monsanto à verser 290 millions de dollars de dommages et intérêts à un jardinier américain. Les Américains qui avaient les yeux et les oreilles tournés vers le Congrès cette nuit. Donald Trump y a donné son discours sur l'état de l'Union, discours qu'il avait repoussé en raison de la paralysie budgétaire partielle dans le pays et en raison des tensions entre démocrates et républicains. Cette nuit donc, le locataire de la Maison Blanche a appelé au rassemblement sans convaincre totalement. Compte rendu signé Grégory Phillips.
Il avait promis un discours rassembleur et Donald Trump tient parole.
Le programme que je vais vous présenter ce soir n'est ni républicain ni démocrate. C'est celui du peuple américain.
Donald Trump prononce son discours avec derrière lui, un peu plus haut, le vice-président Mike Pence et la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi. Et sur le visage de la patronne des représentants démocrates, on guette évidemment la moindre réaction. L'opposante numéro un à Trump est souvent dubitative. Parfois, elle applaudit poliment sur les sujets consensuels et pas du tout quand Trump évoque l'immigration illégale et son projet de mur à la frontière avec le Mexique.
Les murs, ça fonctionne. Et les murs, ça sauve des vies.
Puis Donald Trump vante son bilan économique tout en mettant en garde ses opposants qui seraient tentés de lancer contre lui une procédure de destitution.
Un miracle économique est en train de se produire aux États-Unis. Et la seule chose qui risquerait d'arrêter cela, ce sont des enquêtes ridicules, politiques et partisanes.
Trump a parlé 1h23 à la tribune, égalant presque le record détenu par Bill Clinton. Discours volontairement rassembleur, mais c'est un vœu pieux, car dans 10 jours, l'Amérique risque de connaître à nouveau un shutdown, une paralysie partielle de ses administrations, si démocrates et républicains ne trouvent pas d'accord sur le mur voulu par le président.
La date butoir est en effet fixée au 15 février prochain. Ajoutons que question budget, Donald Trump a aussi demandé cette nuit que des fonds soient dégagés pour, désire-t-il, éradiquer le VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. Côté politique extérieure, enfin, une date à retenir, le 27 février. Le président américain sera au Vietnam pour rencontrer pendant 2 jours son homologue nord-coréen Kim Jong-un et pour parler dénucléarisation. Et pendant que Donald Trump promet un mur pour séparer son pays du Mexique, justement à la frontière côté Mexique, 1700 migrants sont en train de s'installer. Ils ont pour la plupart quitté le Honduras dans l'espoir d'entrer aux États-Unis. La ville de Piedras Negras au Mexique a mis en place des entrepôts pour héberger ces migrants. L'opposant Juan Guaido au Venezuela défie Nicolas Maduro, reconnu président par intérim par une quarantaine de pays. Il organise l'arrivée d'une aide humanitaire internationale, ce que refuse le président élu Nicolas Maduro. Ce matin, justement, des militaires vénézuéliens ont bloqué un pont à la frontière avec la Colombie. C'est ce qu'affirme en tout cas un député de l'opposition. C'est notamment par ce pont que l'aide humanitaire devait passer.
Il est 8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les services secrets français savaient qu'un génocide pouvait avoir lieu au Rwanda en 1994.
Oui, après l'attentat contre le président rwandais, l'avion du président, en tout cas, Habyarimana, un attentat qui a déclenché le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 800 000 morts en 100 jours. Benoît Colomba nous révèle ce matin de nouveaux éléments sur le cerveau de ce génocide.
Il s'appelle Théoneste Bagosora. Cet ancien directeur de cabinet du ministre rwandais de la Défense est considéré comme l'un des architectes du génocide contre les Tutsis. Selon une note du 22 septembre 1994 de la DGSE, les services secrets français, une note jamais révélée jusqu'ici, le colonel Bagosora est désigné, avec un autre extrémiste Hutu, comme le principal commanditaire de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, l'étincelle du génocide en préparation. Des juges français enquêtent également sur 80 tonnes d'armes vendues illégalement en juin 1994 en plein génocide, livraison d'armes à la demande là encore du colonel Bagosora. Selon nos informations, les juges ont reconstitué les circuits financiers de cet achat d'armes qui passe notamment par BNP Paribas. La banque ne fait aucun commentaire. Condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international, Théoneste Bagosora est actuellement incarcéré au Mali, mais il a refusé de parler aux juges français.
Une enquête complète à retrouver en une de notre site internet franceculture.fr ce matin. Enquête en partenariat avec le site d'information Mediapart. Mediapart qui travaille également sur les ramifications et les conséquences de l'affaire dite Benalla. Le site a révélé hier un 7e enregistrement faisant état de conversations entre Alexandre Benalla et l'ancien gendarme Vincent Crase. Tous ces enregistrements ont été remis à la justice, précise l'équipe de Mediapart. Ils prouvent en tout cas que les deux hommes, Alexandre Benalla et Vincent Crase, qui n'étaient pas autorisés à se voir sous leur contrôle judiciaire après les violences du 1er mai, que ces deux hommes donc ont violé cette interdiction. Le duo Maxime Fayolle a pris beaucoup de précautions pour que cela ne se sache pas.
Depuis l'enquête sur les agissements du 1er mai et leur mise en examen, Vincent Crase et Alexandre Benalla n'ont pas le droit de se voir. Une interdiction qui a donc été violée à une reprise, au moins en ce 26 juillet. D'habitude, les deux hommes échangent plutôt par mail, relate Mediapart. Pas question de s'en envoyer directement, au risque de laisser des traces. Ils vont donc chacun se connecter à la même boîte mail fantôme, s'écrire des brouillons et les supprimer au fur et à mesure. Ne pas laisser de traces, c'est le leitmotiv d'Alexandre Benalla. Dans le dernier enregistrement du site d'investigation, il demande à Vincent Crase s'il a bien tout enlevé de son téléphone. Vincent Crase répond par l'affirmative. Il a supprimé tout ce qui avait un lien avec la société Velours, le sous-traitant qui a passé le contrat avec l'oligarque russe Marmoudov pour le compte de la société Mars. Une société qui d'ailleurs devient gênante dès lors que la pression médiatique et judiciaire augmente autour du duo. Il faut s'en séparer et vite. Lors de leur rencontre en juillet, Alexandre Benalla demande d'ailleurs à Crase de disparaître de la boîte. Ce sera chose faite quelques semaines plus tard. Une nouvelle structure va reprendre ce contrat russe. À sa tête, un tout proche d'Alexandre Benalla qui sera lui-même salarié de cette structure avec un salaire supérieur à 12 000 euros en novembre selon Mediapart.
L'Assemblée nationale a voté en faveur de la loi anti-casseurs, une issue prévisible. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l'abstention des députés de La République En Marche. Il y a eu 50 abstentionnistes dans les rangs de la majorité. Ils critiquent l'article 2 du projet de loi, un article qui autorise les préfets à prononcer des interdictions de manifester. Le texte doit maintenant être étudié par le Sénat. Eux n'ont pas boudé leur droit à manifester. Partout en France, hier, des dizaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la CGT. Ils étaient 300 000 selon les organisateurs, 137 000 selon le ministère de l'Intérieur, 137 000 dit l'Intérieur. Pour la première fois hier, gilets jaunes et drapeaux rouges ont marché ensemble. Ils auraient bien aimé se rapprocher, fusionner même, mais devant les fortes réticences de l'Union Européenne, le spécialiste du ferroviaire français Alstom et l'allemand Siemens pourraient abandonner leur fusion. Alstom convoque cet après-midi un comité européen extraordinaire. Dans les colonnes du Figaro, son PDG, Henri Poupart-Lafarge, reproche à la Commission européenne ses préjugés idéologiques. La Commission, elle, évoque un problème de concurrence dans cette fusion entre Alstom et Siemens qui pourrait créer un géant du ferroviaire européen. La Commission a choisi son camp, Audrey Tison.
Quelle est la priorité de l'Europe ? Assurer le droit de la concurrence ou avoir une ambition économique ? Pour la Commission de Bruxelles, c'est le droit qu'elle est chargée de faire appliquer depuis les années 90. La commissaire à la concurrence a émis de sérieux doutes sur cette fusion. Construire un géant du ferroviaire, c'est le risque d'avoir un quasi-monopole, notamment dans la construction des trains à grande vitesse. Risque de hausse des prix, pas intéressant pour les consommateurs. Une inquiétude partagée par des pays comme l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas. Leurs industries ferroviaires supporteraient difficilement la comparaison. Alors, l'avenir de la mobilité va-t-elle être déterminé par des technocrates rétrogrades ? Question agacée posée par le PDG du groupe Siemens. La fusion franco-allemande est officiellement soutenue par Paris et Berlin. Le refus serait une erreur économique et une faute politique, d'après Bruno Le Maire. Nathalie Loiseau dénonce des règles absurdes édictées au XXe siècle, tandis que le leader du marché, le chinois CRRC, commence à briguer des contrats en Europe de l'Est. Nous avons besoin de champions internationaux en position de faire face à la concurrence mondiale, renchérit le ministre allemand de l'économie, dans des termes moins virulents. Il faut dire que le droit de la concurrence européen est fortement inspiré du modèle germanique. Si cette fusion déraille, Paris et Berlin ont bien l'intention de faire modifier ces règles européennes.
Audrey Tison, qui évoquait à l'instant la menace de la Chine, le rejette. Cette fusion va servir les intérêts de Pékin. Voilà ce que regrette ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il est aussi question de concurrence en France pour le rachat de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Moins de 4 ans après avoir racheté 49,9% des parts détenues par l'État, le chinois Casil a décidé de revendre ses actions, faute d'argent suffisamment gagné, dit-il. Voilà qui interroge à l'aube d'une privatisation possible d'ADP à Aéroport de Paris. Comment le groupe chinois a-t-il lâché Toulouse-Blagnac et qui pour le remplacer ? Les dossiers doivent être déposés aujourd'hui au plus tard. Nous faisons le point ce matin avec Hakim Kasmi.
C'est parce qu'il estime ne pas être arrivé à ses fins que l'opérateur chinois Casil a décidé de se séparer de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un opérateur gourmand qui voulait distribuer la majorité des réserves de la plateforme, soit 60 et 70 millions d'euros, aux actionnaires. L'État et les partenaires publics locaux s'y sont fortement opposés. Finalement, seuls 20 millions d'euros ont été débloqués. Mais le propriétaire chinois voulait surtout devenir actionnaire majoritaire en rachetant 10,1% du capital détenu encore par l'État. Si Bercy est éventuellement prêt à le faire, face à la contestation et à la mobilisation des collectivités locales qui ont toujours été contre le rachat par Casil de l'aéroport de Toulouse, dont ils estiment qu'il a toujours privilégié les gains et la productivité au détriment des investissements, le gouvernement a finalement refusé. Quant aux repreneurs, ils sont déjà nombreux, avec 5 candidatures, à commencer par Vinci, qui fait partie des plus gros gestionnaires d'aéroports dans le monde, avec 46 plateformes, dont 12 en France, à Nantes et Lyon. Autre groupe du BTP sur les rangs, Eiffage, qui n'exploite pas encore d'aéroport, mais qui espère ainsi se préparer à la fin des concessions autoroutières d'ici 2030. Pour le reste, il s'agit de candidatures étrangères provenant d'Italie et d'Australie.
Des précisions signées à Kim Kasmi. Une nouvelle étape dans la reconnaissance du génocide arménien. Une journée commémorative sera célébrée tous les 24 avril. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir devant la communauté arménienne. Un geste que les Arméniens de France attendaient avec impatience. La météo du jour avec de la pluie à l'ouest et un grand soleil à l'est. Il fait ce matin 0 à Besançon, 2 à Lyon, mais déjà sous la pluie, 5 degrés à Lille, 7 à Paris, 9 à Bordeaux, 13 degrés sous le soleil de Perpignan.